Actualité Afrique Monde.
La 6e conférence bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tenue dans la capitale burkinabé, a rendu son verdict hier. Les deux gouvernements ont signé une dizaine d'accords dans le domaine de la sécurité, la défense, l'énergie et les transports. Les défis sécuritaires ont également occupé une partie des discussions. La conférence s'est engagée à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre des pratiques anormales sur leur corridor afin d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer démarrent en septembre prochain. Autre verdict, cette fois en Côte d'Ivoire, celui que la Cour d'appel doit en principe rendre aujourd'hui au sujet de la 12e demande de liberté provisoire des avocats de Laurent Gbagbo en faveur de leurs clients. Les 11 premières demandes faites depuis une année et demie ont toutes été rejetées jusqu'ici par la Cour pénale internationale. Rappelons que l'ancien président ivoirien reste détenu à la CPI depuis 6 ans. Et au Canada, près de 40 000 personnes sont obligées de tout abandonner face à la rage des flammes dans l'ouest du pays, dans la province de la Colombie-Britannique. Des gigantesques incendies ne cessent de progresser depuis plusieurs jours, malgré le travail de 3000 pompiers venus de tout le pays. 200 hélicoptères sillonnent aussi le ciel de cette région, l'une des plus touristiques du pays. Comme dit dans le sommaire, les autorités congolaises exigent que les entreprises minières rapatrient 40% de leurs recettes des ventes des devises dans les banques locales. Ceci pour enflouer la Banque centrale du Congo en devises étrangères, car elle fait face à une pénurie en devises. Cette décision suffit-elle pour enflouer la BCC et mettre fin à la dépréciation du franc congolais constatée sur le marché? Explication dans ce dossier signé Paulin Munanga et Nadine Fulansimba.
Le premier à donner le ton fut le ministre de l'économie au cours de la semaine minière du Katanga qui s'est tenue du 23 au 24 juin dernier à Lubumbashi. On écoute Joseph Kapika, ministre de l'économie.
Toutes les sociétés œuvrant en RDC doivent rapatrier 40% des devises qu'elles gagnent. Il s'agit donc de cette quote-part-là qui doit revenir à l'État.
Ensuite, c'est au tour de la Banque centrale du Congo qui a publié une instruction administrative. Dans celle-ci, la BCC énumère des sanctions prises à l'encontre des entreprises minières qui ne se conformeraient pas à cette décision. Et depuis dimanche, une délégation venue de Kinshasa séjourne à Lubumbashi où elle a rencontré les entreprises minières pour plus de sensibilisation. On écoute Dio Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo qui est dans cette délégation.
Les rapports d'émission dirigés par la Banque centrale indiquent que plusieurs entreprises minières ont développé des pratiques conduisant au non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de rapatriement de recettes d'exploitation.
Mais que disent les entreprises minières de tout cet harcèlement, si on peut l'appeler ainsi? Cyril Mutombo, DG de Kibali Gold Mines, affirme que son entreprise rapatrie même au-delà de 40%.
Nous avons produit notre premier lingot d'or en septembre 2013 et depuis lors, nous rapatrions nos recettes. En 2013, les 40% étaient rapatriés, en 2014 pareil, en 2015 et en 2016, nous sommes même allés au-delà.
Si Kibali et d'autres entreprises minières affirment avoir rapatrié chaque année ces 40%, qui sont alors les entreprises qui ne se conforment pas et que doit faire le ministère tutelle pour le contraindre? À ce sujet, nous avons approché une ONG locale spécialisée dans les questions minières. Pour Florent Moucha, président du conseil d'administration de la plateforme des organisations œuvrant dans le secteur des mines, le ministère devrait faire appliquer les sanctions prises par la BCC.
Leur demander de fournir un effort supplémentaire qui va entraîner bien sûr des coûts au niveau des transactions de ces entreprises.
Les rapatriements de 40% constituent-elles la seule option pour le gouvernement congolais? Papi Maotela, analyste économique, n'est pas de cet avis. Il estime qu'il y a d'autres options.
Non, je ne pense pas. C'est juste un petit levier, mais il y a plusieurs leviers pour y arriver. Il faut réellement réduire les trains de vie d'auto. Il faut regarder en termes de la taxation. Aujourd'hui, notre taxation ne permet pas des autorités économiques de pouvoir faire de profits. Et ce qui est aussi très important, il faut voir au niveau de notre administration, dans la collecte de la recette publique.
Une certaine opinion estime que vu la gravité de cette crise économique, tous les efforts doivent être formés pour sortir les pays de cette crise.
Revue de presse.
Donald Madimba, bonjour.
Bonjour Belinda Boussouma.
Ce mercredi, les journaux parus à Kinshasa se concentrent sur la publication du calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.
Le calendrier de l'élection des gouverneurs dans 11 provinces de la RDC, à savoir, vous l'avez dit Belinda Boussouma, Bahouélé, Équateur, Okatanga, Olomami, Kasaï Central, Kwilu, Mongala, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tchopo et Tchouapa. Ce mercredi, les journaux de Kinshasa ne parlent que de cela. Certains, comme le journal L'Avenir, Actualité.cd ou encore Dépêche.cd, juste pour vulgariser le calendrier avec trois dates stratégiques sur trois mois. Le 21 prochain, dépôt des candidatures jusqu'au 25. Le 26 août, gouverneur et vice-gouverneur sont votés. Et le 12 septembre, publication des résultats de ces scrutins. Dépêche.cd spécifiant même que pour les provinces de l'Équateur, de la Mongala et du Bahouélé, il n'y aura le vote que des vice-gouverneurs à travers des élections partielles telles que prévues par l'article 160 de la loi électorale. Et tout cela fait penser à Forum des As, je cite, que la majorité a lâché ses gros poissons, le tabloïd citant des noms comme Marcelin Chichambo, Claudel Kinyoka, Jean-Claude Kazembe, Jean Tokole, Tony Bolamba ou Alex Kandé comme lâchés par la Kabylie, fin de citation, Germain Kambinga et Vital Kamere cités ce mercredi dans la presse écrite de Kinshasa, notamment Dépêche.cd et Actualité.cd, comme ayant des idées, des solutions à la situation actuelle du pays. Le dernier titrant, Kabila, Félix Tshisekedi Kamere et Katumbi constituent la solution à la crise actuelle, faisant ainsi parler Germain Kambinga, et le premier écrivant, je cite, sorti de la crise en RDC, Germain Kambinga propose une rencontre entre Kabila, Tshisekedi Kamere et Katumbi. Fin des citations. Nomination à la police et armée nationale de la RDC, l'UDPS réagit et 7 sur 7 de reprendre. Chambardement dans la police, c'est une distraction. La police et l'armée ne peuvent bien fonctionner s'il y a une mainmise, selon Augustin Kabuya, porte-parole du parti de Étienne Tshisekedi.
Merci Donna, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
L'invité.
Remise et reprise hier au commissariat général de la police nationale, le général-major Charles Bissengimana a remis le bâton de commandement au lieutenant-général Dieudonné Amouli. Quelle analyse fait-on de ce changement? Jean-Jacques Wondo, analyste spécialiste dans le domaine des défenses et sécurité, répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, bonjour.
Bonjour.
Le président Joseph Kabila a procédé à des nouvelles mises en place au sein de la police. Et là, c'est un général des forces armées congolaises qui vient d'être nommé commissaire général de la police nationale congolaise. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle mise en place?
Je pense que cette nomination, qui semble surprendre plus d'un, n'est pas une première en République démocratique du Congo. Et on peut même remonter à l'époque des forces armées zaïroises du temps de Mobutu, ou à une époque on a eu le général Baramoto, qui a été à la tête de la garde civile, donc qui était plutôt un service de sécurité paramilitaire à caractère policier, et qui a été nommé pendant un temps chef d'état-major des armées. Et aussi, on peut encore remonter en 2007, lorsque le général John Lombi a quitté la force aérienne pour être nommé commissaire général de la police. Donc, c'est devient une sorte de pratique purement congolaise qui fait qu'on a cette interversion des rôles entre l'armée et la police, alors que sur la base de fonctionnement organique ou sur la base des statuts des militaires et des policiers, cela ne devrait pas se passer dans un monde, comme on dit, normal.
Justement, ces nouvelles nominations interviennent pendant une période où l'insécurité se montre grandissante dans le pays, et plus particulièrement à Kinshasa, avec de multiples évasions. Ne pensez-vous pas que ces nominations tombent fort à propos?
Non, je ne pense pas que ça tombe fort à propos, parce qu'il y a une distinction entre une armée et un service de police. Une armée a pour mission de défendre l'intégrité nationale et le territoire national contre l'agression extérieure. C'est-à-dire que la fonction de l'armée, c'est d'abord travailler au niveau des frontières pour empêcher qu'il y ait des agressions ennemies ou des unités qui ou des forces étrangères qui viennent utiliser des moyens militaires de guerre. Or ici à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Les évasions qui se sont déroulées à Kinshasa, on se pose d'abord la question qui sont derrière ces évasions. De l'autre côté, si on doit transférer des militaires vers la police, cela doit être fait par des autorités légales administratives dans des circonstances bien déterminées. Or ici, on a l'impression que c'est comme si on est en train de prendre des mesures
qu'on prend d'habitude en cas d'état d'urgence ou d'état de siège sans pouvoir le dire. Et cela ne se limite pas au fait que le général Amoli a été nommé à la tête de la police. Mais depuis un certain temps, beaucoup des éléments de la garde républicaine ont été injectés dans la police pour effectuer les missions de maintien de l'ordre. Donc on est plutôt dans une conjoncture de militarisation de la police, alors que la police peut bien remplir ses missions normalement.
Depuis un certain temps, on observe dans la ville de Kinshasa un double déploiement. En même temps qu'on déploie les policiers, mais on déploie aussi les éléments des FARDC. Lorsque un commandant des FARDC prend la tête de la police, est-ce que vous pensez que ça peut faciliter l'unité de commandement?
Oui, dans un sens ou dans une logique purement tactique. D'autant plus que j'ai parlé de la militarisation du pays. C'est-à-dire que la police est là pour des tâches de maintien de l'ordre, mais jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi l'armée doit se déployer. D'autant plus qu'il n'y a pas une menace qui est avérée d'une guerre. Plutôt, on a vu le mois passé, les années passées, l'armée intervenir sur le terrain du maintien de l'ordre.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des dangers à travers cette mise en place et quels seront les avantages?
Les dangers, ça dépend de la personne qui détermine la menace et tout. Les dangers, c'est d'abord en termes de respect des droits et libertés garantis par l'institution. D'autant plus que généralement, les forces de police, surtout que on sait que la plupart des policiers ont été formés sur des bases assez standards de respect de certains principes liés à la légalité, à la proportionnalité et à l'opportunité de pouvoir agir. Or, généralement, quand on met les militaires, c'est pour tuer. Donc les dangers qu'on risque de dépasser vers une dérive sécuritaire et un usage violent des moyens militaires, cela peut causer la restriction des libertés de mouvement, des droits fondamentaux des personnes et tout ça. Ça, c'est le danger d'un tel dispositif, parce qu'un militaire, il ne va pas réfléchir, il n'a pas une psychologie pour agir, un militaire, il l'a pour tuer. Donc c'est plutôt un danger en termes politiques. Je ne vois pas jusque-là une menace qui nécessite qu'on déploie autant de forces armées dans la capitale, alors que quand on écoute ce qui se passe au niveau de la population demande à ce qu'il y ait une alternance, la population demande à manifester pacifiquement. Ici, le message est plutôt un message de militaire, de guerre, et avec tous les dérapages que cela peut comporter, parce qu'un militaire, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un policier qui travaille dans la prévention, un militaire est là pour tuer.
Monsieur Jean-Jacques Wondo, je vous remercie.
Je vous en prie, merci.
Okapi Sport.
Le sport avec Christian Mulumba Kalumba, bonjour.
Bonjour Belinda, le championnat national de football saison 2016-2017 se termine ce mercredi avec le duel au sommet entre le tout puissant Mazembe et l'ASV Club. Les deux équipes s'affrontent cet après-midi au stade de Mazembe de la commune de Kabalondo à Lubumbashi dans le cadre de la 14e et dernière journée de la phase des play-offs. Ce match vaut un détour au regard du classement actuel. Mazembe Club se tiennent dans un mouchoir de poche avec le même nombre de points, 30, le même nombre de défaites, une seule la différence des buts des partages, les deux protagonistes. Et si le vainqueur de ce match sera déclaré champion à l'issue de la partie, que dit le règlement en cas de match nul? Élément de réponse avec Antoine Louzizila, secrétaire national adjoint de la Ligue Foot.
En application de l'article 224 de RG, il dit que celui qui a plus de points passe avant celui qui en a moins. S'il y a égalité au nombre de points, le critère le plus immédiat qu'on prend en compte, ce sont les nombres de défaites. Celui qui a plus de défaites passe après celui qui en a moins. Au cas où il y aurait égalité au niveau des nombres de défaites, on va au goal average, c'est-à-dire entre le but marqué et le but encaissé, celui qui a le taux le plus élevé passe avant. Au cas où, au niveau des goal différences ou goal average, l'égalité persiste, on va au but marqué. Celui qui a marqué plus de buts passe avant celui qui en a marqué moins. Au cas où l'égalité persiste encore à ce niveau-là, le critère suivant, c'est le goal average particulier. C'est celui qui concerne la confrontation entre deux équipes qui a marqué plus de buts que l'autre. Si à ce niveau encore l'égalité persiste, l'article 224 de RG dit qu'on doit organiser un match de barrage qui, au terme duquel, s'il y a encore égalité, conduira les deux parties, les deux équipes au tir au but.
Donc, en cas de nul, c'est Mazembe qui serait champion. Et V-Club, pour remporter les titres, doit battre Mazembe.
Exactement.
Antoine Luzila, secrétaire national adjoint de la Ligue Foot Amico de Nanambala. Notons que Florent Ibengue ainsi que le joueur n'ont pas effectué le déplacement de Lubumbashi mardi comme initialement prévu, faute de place dans l'avion. Ils rejoindront ce mercredi la première partie de la délégation déjà présente dans la capitale du cuivre. Puis Mouni Zaïra assume désormais les fonctions de sélectionneur principal de l'équipe nationale de football locale de la RDC. Vainqueur du CHAN 2016 au Rwanda, Mouni Zaïra était jusque-là adjoint de Florent Ibengue qui n'a pas souhaité continuer à la tête de cette sélection.
Merci Christian pour l'actualité sportive et c'est avec vous que nous bouclons ce journal mis en onde par André Mongou. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio de la paix.